Louer et remercier soit le Seigneur pour sa grâce et sa fidélité, pour ce qu'il a fait pour nous tous par grâce et en nous tous. Pour ma part, je ne voudrais pas manquer de vous souhaiter à tous une très cordiale bienvenue. Mercredi, j'ai particulièrement ressenti ce que signifie être accueilli lorsque nous avons été accueillis par un grand nombre de frères et sœurs à l'aéroport de Düsseldorf après notre absence de 5 semaines. C'est là que j'ai compris ce que signifiait réellement un accueil. C'était de la joie, c'était des fleurs, c'était des embrassades, c'était tout ce qui donne le sentiment d'être là. Ici tu as des amis, ici tu as des frères, ici tu as des sœurs, ici tu es chez toi. Et en plus de tout cela, quand nous sommes rentrés à la maison, il y avait un grand panneau « Bienvenue sur notre propre maison ». Oui, c'était fabuleux. Le gâteau était là, tout était là. C'était un accueil. Nous espérons qu'en tant qu'assemblée ici, nous avons quelque chose de similaire à vous souhaiter la bienvenue à tous. Vous devez avoir l'impression que nos intentions sont sincères et chaleureuses. Même si nous sommes peut-être limités dans nos possibilités, mais l'amour de Dieu est sans limite. Nous souhaiterions pouvoir révéler et communiquer cet amour de Dieu à chacun, encore et encore. L'amour se communique, nous l'avons vu. Nous en avons fait l'expérience. L'amour terrestre se communique. Il a besoin de communiquer quelque chose. Et l'amour de Dieu s'est d'autant plus communiqué en Jésus-Christ, notre Seigneur. Un cantique dit « Ô homme, ô amour de Dieu si plein et si libre de tout temps et toujours nouveau. » Lorsque nous regardons vers Golgotha et que nous prenons conscience de ce qui nous a été accordé par l'amour de Dieu, nous savons à quel point Dieu a été bon avec nous tous. Aucune bouche ne peut le dire. Les pensées que nous avons ne peuvent pas le sonder. Il y a quelques instants, nous avons chanté ensemble, les portes des perles sont ouvertes pour nous, pour les hommes qui étaient perdus, qui étaient nés dans le péché, qui étaient condamnés, qui auraient dû descendre en enfer, mais qui maintenant, par le sang de l'agneau, sont sauvés, reçoivent le pardon de toute faute et de tout péché, la certitude d'avoir reçu la vie éternelle. Oh, c'est une grâce qui ne peut pas être décrite simplement avec des mots. Mais dans notre cœur, nous ressentons déjà un peu de ce que nous vivrons un jour sur l'autre rive avec notre Dieu et avec tous les réconciliés, avec tous les rachetés, avec tous ceux qui ont reçu la grâce de Dieu. C'est déjà glorieux ici. Mais tant que nous serons sur terre, certaines choses ne seront pas comme nous le voudrions. Et il y a une raison à cela. Pour que nous ne nous sentions pas chez nous ici sur terre, mais que nous soyons de plus en plus arrachés à cette terre pour être libres de tout ce qui nous lie. Un autre cantique dit « De la terre, arrache-moi, Rends ma foi grande. Donne-moi un sens fidèle. Prends-moi tout entier, mon Jésus. Ce ne sont pas seulement des paroles que nous prononçons ainsi ici. Nous le pensons. Un autre cantique dit, être à moitié délivré, c'est le mal. Cela ne suffit pas à l'âme. Le salut complet, c'est ce qu'enseigne notre Bible. Nous pouvons continuer à réciter et à citer ce qui a ému les poètes et ce qui nous émeut tous. Il n'y a rien de plus beau que de chanter l'amour de Dieu, que de chanter la grâce de Dieu et de l'adorer pour ce qu'il a fait pour nous tous. Et le psaume 103 dit ici, n'oublie pas le bien qu'il t'a fait. Cela aussi peut nous arriver d'oublier lorsque cela fait un certain temps. Nous chantons en effet dans l'un des cantiques dans le chœur. Rappelez-vous, rappelle-toi que nous sommes que des hommes oubliés et faibles. Mais le Seigneur nous rappelle toujours à nouveau ce qu'il a fait pour nous. Il a racheté notre vie de la perdition et nous a couronnés de grâce et de miséricorde. Nous pouvons en être sûrs. Lui qui pardonne nos péchés guérit toutes nos infirmités. L'un ne peut pas être séparé de l'autre. Le même Dieu a fait la promesse de nous délivrer de la perdition. Il a fait. Est-ce vrai ou non? Il a fait la promesse de guérir toutes nos infirmités. L'a-t-il fait aussi? Oui, il l'a fait. Et si nous le confessons avec foi et nous plaçons sur le sol victorieux de Golgotha, alors l'ennemi doit dégager. Alors Dieu, le Seigneur, pourra manifester sa puissance, sa puissante victoire sur nous tous. Et comme il est écrit, et la foi est la victoire qui a vaincu le monde. 1 Jean 5, 4. Pas une foi, mais la foi opérée par l'Esprit de Dieu, fondée sur la sainte parole, est la victoire qui a déjà vaincu le monde. J'espère que tous ceux pour qui cette manière de proclamer la parole est nouvelle ou étrangère, vous serez néanmoins bénis. Nous avons tous été étrangers au plein évangile une fois, mais lorsque nous avons compris que nous avions été en fait privés de bénédiction et trompés, nous avons soudain constaté que Dieu nous faisait entrer dans la lumière, qui nous gratifiait des riches biens de sa maison et qu'il ne manquait absolument de rien. Qu'est-ce que Dieu aurait pu faire de plus que ce qu'il a déjà fait depuis toujours? N'a-t-il pas parlé? N'a-t-il pas révélé son plan de salut? N'a-t-il pas envoyé ses serviteurs et ses prophètes tôt et tard, matin et soir, comme il est écrit? Ne nous a-t-il pas fait connaître toutes ses voies dans l'Ancien et le Nouveau Testament? N'a-t-il pas même laissé entrevoir jusqu'à dans l'éternité ce qu'il a préparé pour ceux qui l'aiment? Notre Dieu est un Dieu glorieux, un Dieu merveilleux. Je souhaiterais seulement que nous puissions laisser libre cours à l'Esprit de Dieu directement lors de la première réunion. Je crois que j'ai rarement été aussi heureux. Je me suis rarement autant réjoui de la parole du Seigneur maintenant, alors que je lisais le dernier chant en langue. J'ai simplement pu me réjouir, à ce point me réjouir du fond du cœur, de voir comment est-ce que notre Dieu est plein de grâce et de miséricorde, comme il est fidèle, comme il peut façonner les mots dans la bouche d'un homme. Qui pourrait le composer aussi rapidement? J'étais si bouleversé, si heureux, si touché de savoir au fond de moi, comme nous l'avons lu ici une fois à partir des paroles de Dieu, mon esprit règne au milieu de vous. C'est tout ce que nous voulons. C'est tout ce dont nous avons besoin. Ce n'est pas l'esprit des hommes, mais l'esprit de Dieu. C'est lui qui doit régner au milieu de nous, parmi nous. Il doit tout diriger et conduire réellement. Qu'il parle, qu'il révèle, qu'il conduise dans toute la vérité. Oh, que l'esprit de Dieu puisse avoir tout l'espace libre en nous. Tous, que les dernières ambiguïtés puissent être levées, que nous puissions tous, comme l'a déjà dit mon bien-aimé frère, que nous puissions tous accueillir la parole en nous, non pas pour en parler ensuite, mais comme Marie, pour la ramener dans nos cœurs, la repasser dans nos cœurs, y réfléchir, nous y plonger. Alors, elle devient pour nous une révélation vivante et nous voyons des choses que nous n'avions jamais vues auparavant. Qui est ici pour la première fois ce soir? Puis-je demander que vous levez brièvement les mains? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oui, certainement. Là aussi, oui. Environ 15 frères et sœurs. Je vous souhaite encore une fois la bienvenue pour que vous sachiez que vous êtes les bienvenus. Je vous souhaite tout particulièrement la bénédiction de Dieu. Et j'espère que tout ce qui sera dit trouvera un terrain fertile et pourra porter du fruit à 100% conformément à ce que le Seigneur a promis. Vous savez que nous pourrions parler de beaucoup de choses tirées des Saintes Écritures. Notre sujet pourrait être la guérison des malades, il pourrait être l'enlèvement, il pourrait être de nombreux sujets bibliques. On pourrait choisir et d'en parler. Mais vous savez qu'il faut s'en tenir à ce qui a été donné par Dieu pour cette heure. Et nous ne devons jamais perdre de vue que nous vivons maintenant dans un âge prophétique. Et que nous ne parlons pas seulement des vérités bibliques fondamentales, des enseignements comme cela est peut-être écrit dans le chapitre 6 des Hébreux. Nous ne voulons pas commencer à nouveau par l'imposition de la repentance et du baptême et ainsi de suite, mais nous voulons aller vers la perfection. Paul dit ailleurs que si beaucoup d'entre nous sont maintenant parfaits, soyons dans les mêmes sentiments, soyons dans cet état d'esprit. Nous devons être initiés au mystère de Dieu en ce temps. Et je pense que nous avons entendu des prédications sur tous les sujets bibliques dans le passé. Mais comme je l'ai déjà dit, nous vivons maintenant dans un âge prophétique. Avec ce terme ne signifie rien de moins ni de plus que la prophétie biblique s'accomplit à nouveau maintenant dans notre temps. Et que Dieu veille sur ses paroles pour les accomplir. Il nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir ce qu'il a fait au cours de la nouvelle alliance et surtout à la fin des temps. De quelle manière il a parlé à son peuple. Si vous avez tous fait attention en lisant la parole de Dieu, vous trouverez que toutes les lettres de Paul apportent l'enseignement pour l'Église. Il a écrit sur les dons de l'Esprit, sur la résurrection, sur le jugement, sur le changement, sur la transformation, de notre corps, donc sur l'enlèvement, sur beaucoup, beaucoup, oui, sur tous les enseignements bibliques qui ont été prescrits à l'Église. Dans toutes ces lettres, il a présenté aux hommes Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu, en tant que crucifié, celui qui croit au Fils de Dieu, à la vie éternelle. Dans les Épîtres, tout l'enseignement concernant l'Église est donné, à l'exception de la partie prophétique de l'histoire du salut qui est exposée de manière particulière dans le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse. Et si nous faisons bien attention à ce que nous lisons, nous constatons que parmi les nouveaux dons, parmi les neuf dons de l'Esprit qui servent à l'édification de l'Église, il y a le don de prophétie et les autres dons de l'Esprit. Mais lorsqu'il s'agit de la partie prophétique, nous voyons Jésus-Christ marcher au milieu des sept chandeliers d'or. Et cela, en tant que fils de l'homme, de la bouche duquel sort une épée tranchante, une épée à deux tranchants. Et puis dans l'Apocalypse, nous ne lisons plus rien de l'ordre concernant le baptême, le souper, les dons spirituels, les dons de l'Esprit ou d'autres enseignements bibliques. Lorsque nous regardons dans le livre de l'Apocalypse, nous entendons une voix comme le tonnerre, nous percevons des révélations du Dieu vivant, nous sommes alors transportés dans les choses célestes par le Saint-Esprit. De même que Jean a été enlevé par l'Esprit de Dieu pour voir ce qui est, ce qui sera et ce qui était, et que cela lui a été révélé. Il faut voir cela une fois pour comprendre ce que cela signifie. Lorsque Dieu ordonne un ministère prophétique de l'Église et le révèle là, la plupart des gens ne voient que ce qui est exposé dans les Épîtres. Ils enseignent et ne comprennent pas que du point de vue de l'histoire du salut, nous avons déjà traversé tous ces âges de l'Église et que nous sommes maintenant à la fin du temps de grâce et qu'une partie prophétique doit s'accomplir maintenant conformément à la parole prophétique. C'est ce sur quoi les gens trébuchent. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Si quelqu'un lit Romains 7, ils le comprennent tous. Si quelqu'un lit Romains 8, ils le comprennent aussi. Et de toutes ces descriptions de la parole de Dieu, pour lesquelles nous sommes tous reconnaissants. Mais Paul, à l'époque, pouvait dire que ce qui était caché aux enfants d'hommes depuis le début, leur est maintenant, ou est maintenant révélé à ces saints apôtres et prophètes. Qu'est-ce que c'était autrefois? Paul n'avait pas seulement l'ordre pour les choses, n'avait pas seulement reçu l'ordre pour les choses pratiques dans l'Église. Il avait à classer dans l'histoire du salut. Et soudain, quand il prêchait, nous pouvons le lire, Actes apôtres 13, et les Juifs refusent. Il sait alors quelle parole s'applique. Et il dit, il est écrit, « Je t'ai fait lumière des nations. » Et quand les nations ont entendu cela, elles se sont réjouies. Et tous ceux qui avaient été prédestinés prédestinés à la vie éternelle, ont cru. Ils savaient en tant qu'homme envoyé par Dieu, en tant que prophète, en tant qu'apôtre, qu'ils n'avaient pas seulement à enseigner sur le souper, sur le baptême et la résurrection et toutes ces choses. Mais que soudain, lorsque Dieu commençait quelque chose de nouveau dans l'histoire du salut, il devait le classer bibliquement. Puis prendre la parole prophétique et montrer au peuple de Dieu qu'ici s'accomplissait maintenant ce que Dieu avait dit par la bouche de ses serviteurs. C'est ce qui s'est passé dans notre temps. Et pour cela, il faut un ministère prophétique afin de classer la parole prophétique de manière juste. On peut lire très rapidement dans Pierre, vous avez d'autant plus fermement la parole prophétique. La parole prophétique, tous les scribes l'ont eue à travers les âges depuis qu'elle a été mise par écrit. Mais ils n'avaient pas la révélation de la parole prophétique. Et c'est là que résidait l'erreur. La parole prophétique seule, sans la révélation, reste une lettre morte. Mais à partir du moment où la révélation divine arrive, la lumière divine arrive et nous voyons clairement le chemin de Dieu devant nous et nous pouvons le suivre. Ensuite, lorsqu'il est écrit dans l'Apocalypse au deuxième, au troisième chapitre, à la fin de chaque lettre d'envoi, que celui qui a des oreilles à entendre ce que l'Esprit dit, ou bien à dire aux églises. Alors cette parole n'est pas en rapport avec l'exercice d'un don de l'Esprit, mais toujours en rapport avec le message qui a été donné pour l'âge. Avons-nous compris cela? Chaque fois, une fois à la fin de chaque lettre d'envoi, pas à la fin d'une prophétie, pas à la fin d'une quelconque activité d'un don de l'Esprit, mais à la fin de chaque lettre d'envoi, nous entendons l'exhortation, l'avertissement, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Les dons de l'Esprit dans l'Assemblée sont destinés à l'édification de l'Église et nous, nous réjouissons de chaque manifestation de l'Esprit. Mais la partie prophétique ne doit pas être négligé. Et il y a aujourd'hui suffisamment de personnes qui pensent qu'après avoir apporté une prophétie, l'Esprit de Dieu a déjà fait tout ce qu'il fallait faire. Non. L'Esprit de Dieu donne ce qui est nécessaire à l'édification de l'Église. L'Esprit de Dieu peut envoyer n'importe quel Philippe, il peut envoyer n'importe qui pour donner une révélation qui est d'une grande importance pour un individu ou pour l'Église. Mais quand il s'agit du plan de salut de Dieu, quand il s'agit de ce qui doit être classé de manière prophétique, alors nous devons prendre la parole prophétique. Et l'esprit de la révélation, nous devons alors l'avoir pour que nous soyons introduits dans cette révélation de Dieu. Je suis si heureux qu'il soit écrit dès le début de l'Apocalypse que l'ange a été envoyé à Jean, non seulement pour lui montrer à lui, mais il est écrit littéralement, pour indiquer à ses serviteurs, au pluriel, ce qui doit arriver. Si cela n'avait été montré qu'à Jean, nous serions tous au sec aujourd'hui. Mais dans l'histoire du salut, il a été décidé dans le plan de Dieu que tous les vrais serviteurs de Dieu recevraient en leur temps la révélation de l'Esprit par la parole prophétique. C'était certain. C'est assuré. Et chers frères et sœurs, il y a une grande différence entre nous ou de nombreux enfants de Dieu qui disent avoir le Saint-Esprit et Jean qui dit, et de Jean, il est écrit qu'il était dans l'Esprit. Il y a certainement une grande différence entre dire « nous avons l'Esprit » ou alors « est-ce que l'Esprit, lui, nous a à sa disposition ?» S'il a vraiment pris possession de notre pensée, de tout notre exercice, de toute notre existence, pardon. Un homme comme Jean ne voyait plus ce qu'il voulait voir. Il voyait ce que Dieu voulait lui montrer. Il ne voyait plus des images terrestres. Il voyait ce que Dieu lui avait révélé dans la gloire. Frères et sœurs, si nous parvenons à pouvoir être en esprit, à être transportés en esprit dans ce que Dieu veut nous montrer et nous révéler. Je l'ai exposé ici en ce lieu. Quand on dit que, quand on parle de ce que Jésus-Christ s'est révélé comme le Fils de Dieu, tout le monde le croit et les gens sont heureux. Mais pourquoi la Bible parle-t-elle de la dernière révélation finale qu'elle sera comme le Fils de l'homme? Luc 17, du verset 30. Après que le Sauveur ait dit, tel que c'était du temps de Noé, du temps de Sodome, etc., et déjà sur ce verset, ce sera dans le jour où le Fils de l'homme se révélera, se manifestera. Et déjà, cette notion de Fils de l'homme nous communique ou nous fait entrer dans la partie prophétique de l'histoire du salut, tout comme Jésus-Christ, le Fils de Dieu, nous fait entrer dans la partie rédemptrice de l'histoire du salut. Lorsque nous pensons à la rédemption, nous pensons à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. En lui, nous sommes devenus des fils de Dieu. Lorsque nous pensons au royaume, au millénium, au royaume millénaire, nous pensons à Jésus-Christ en tant que fils de David qui sera assis sur son trône et qui régnera. Mais lorsque nous pensons à la partie prophétique, nous voyons Jésus-Christ. Nous voyons Jésus-Christ comme le fils de l'homme. Et dans le dernier livre, dans l'Apocalypse, il ne marche pas comme le fils de Dieu au milieu des sept chandeliers d'or, mais comme il est écrit, comme le fils de l'homme. Et en tant que fils de l'homme. Et il n'allait pas partout pour guérir et ressusciter les morts. Sa voix était comme le bruit de nombreuses eaux. Sa voix était comme une épée à deux tranchants. Sa voix était la chose principale dans cette révélation en tant que fils de l'homme. Et celui qui ne comprend pas cela ne peut pas savoir de quelle manière le Seigneur s'est révélé maintenant à la fin du temps de grâce. La plupart des prédicateurs aimeraient que le Seigneur se révèle comme ils en ont l'habitude depuis des siècles, que tout reste comme avant. Avec Dieu, tout ne reste pas comme avant. Dieu fait ressortir l'ancien et le rend nouveau. Et il dit, c'est ce que je fais selon mes paroles parmi mon peuple. Et par là, il teste qui lui accorde la foi et qui est prêt à parcourir avec lui tout le chemin de la révélation divine. Nous savons que lorsque le Sauveur a guéri les malades, après en avoir guéri quelques-uns, ils en ont amené beaucoup plus. Et quand il a guéri beaucoup plus, ils en ont apporté encore beaucoup plus. Mais quand il a commencé à rapporter la parole, alors les nombreux sont devenus trop peu nombreux jusqu'à ce que le Seigneur ait dû dire à ses disciples, « Voulez-vous aussi me quitter ?» Et alors sont venues ces paroles, « Où irons-nous ? Toi seul as les paroles de la vie éternelle. » Et la même chose se répète en ce temps. Après l'immense réveil que Dieu a donné dans tous les pays après la Seconde Guerre mondiale, d'après les récits que l'on peut lire là, la partie prophétique est arrivée à son accomplissement. Et ici, il s'agit de faire un pas de plus avec Dieu maintenant, de sortir de la situation comme nous l'avons souvent considéré, car le Christ lui-même est en dehors de l'Église. Et cela, la plupart ne le comprennent pas. Ils chantent tous dans l'Église comme s'il était dans l'Église, mais il est à l'extérieur aujourd'hui. Et la pensée de la parole selon laquelle il est dehors réside dans le fait qu'il ne pourrait pas nous appeler dehors s'il était lui-même encore dedans. Mais parce que à cause de ce qu'il a fait, il a été rejeté et crucifié à nouveau dans cette génération. C'est pourquoi il est dehors. Et c'est parce qu'il est rejeté, il nous appelle tous à sortir. Car nous aussi, nous sommes rejetés. Nous sommes méconnus, rejetés par tous ceux qui ne comprennent pas ce que Dieu fait en ce moment, dans ce temps. Mais celui qui est rejeté par les hommes n'est pas pour autant rejeté par Dieu. Et comme frère Branham l'a dit, il vaut mieux être rejeté ici et voler là-bas à l'intérieur que rester ici et être dehors ensuite. Là-bas, c'est la meilleure chose qui puisse arriver à un homme. En fait, j'avais une parole et il y a tellement de pensées qui m'animent. Il y a une parole dans Deutéronome, dans le chapitre 4. Deutéronome, il est dit, Deutéronome, chapitre 4, verset 10. La deuxième partie du verset 10, « Rassemble-moi le peuple et je leur ferai entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le jour qu'ils vivront sur la terre et qu'ils les enseignent aussi à leurs enfants. » Particulièrement cette phrase, « Rassemble-moi le peuple, je leur ferai entendre mes paroles. » Pourquoi ? Une réunion est convoquée juste pour que nous voyons. Non, c'est pour que nous puissions expérimenter Dieu, que nous entendions les paroles de Dieu et qu'elles nous transpercent la moelle des os et que nous comprenions enfin que nous n'avons absolument rien à dire nous-mêmes. Combien de fois les gens se sentent importants et pensent qu'ils ont quelque chose à dire? Ils ne peuvent pas rester assis. Il est écrit ici, « Rassemble-moi le peuple, je lui ferai entendre mes paroles. » C'est ce que nous souhaitons. Chaque fois que le peuple de Dieu est convoqué, ce n'est pas pour entendre une interprétation de la parole de Dieu par un homme, mais pour entendre la parole de Dieu elle-même. Car le ciel et la terre, ainsi que toutes les interprétations passeront. Mais la parole de Dieu demeure pour l'éternité. Au temps de Moïse, le Seigneur avait fait quelque chose d'extraordinaire. La colonne de feu était descendue. Le peuple avait été libéré. De grands miracles et signes s'étaient produits. Et le Seigneur avait eu toutes les raisons de convoquer son peuple. Il avait des paroles vivantes pour eux, des paroles d'enseignement et de révélation et de réprimande. Il dit à Moïse, « Rassemble-moi le peuple, je leur ferai entendre mes paroles. » Chaque fois que Dieu nous rassemble en tant que son peuple, il veut nous faire entendre ses paroles. Et sa parole est une parole de révélation, de réprimande. Sa parole est une lumière sur notre chemin. Comment pouvons-nous voir assez clairement le chemin de Dieu dans ce temps? Mais seulement si sa parole nous est donnée. Et chers frères et sœurs, nous ne sommes pas intéressés par une interprétation. Nous ne sommes intéressés par aucune interprétation, aucune. Même si elle est pieuse, nous voulons que la parole de Dieu soit la semence originale. C'est vrai ou pas? La parole de Dieu plantée dans nos cœurs comme la semence originale produira des fruits originaux par la grâce de notre Dieu. Dès le début, Dieu a donné à chaque plante, à chaque être vivant, la possibilité que la semence soit là afin que la même chose puisse sortir. Il en va de même pour la parole de Dieu. Elle ne peut pas revenir à vide, sans effet. Dans ces derniers temps, il doit y avoir une récolte de la semence de la parole de Dieu qui a été répandue. Peut-être n'avons-nous pas encore vu la récolte. Peut-être que tout ce qui a été semé jusqu'à présent l'a été. Et lorsqu'on écoute et lit les nombreuses lettres des émissions de radio, une chose résonne toujours. Les gens ont hésité. Ils ont écouté, entendu et absorbé et n'ont pas eu le courage d'écrire et de dire « Mon Dieu, cela nous est apparu, cela nous est devenu clair. » Mais ensuite vient le jour et l'heure où ils ont le courage de dire que la parole nous a touchés. Nous avons pu distinguer qu'il ne s'agissait pas d'histoire et de contes de fées, mais que c'était la parole sainte de Dieu. C'est de cela que nous avons besoin et de rien d'autre. Tout le reste disparaîtra, passera, et il est certain que tous les enseignements bibliques ont leur place et gardent leur place. Et la gardent. Il est certain qu'à la fin des temps, cet enseignement prophétique viendra s'y ajouter afin que le peuple de Dieu soit informé de la manière dont le chemin vers l'achèvement de l'Église épouse de Jésus-Christ progresse. On ne peut pas se conformer au programme des hommes, car il y a tant de programmes et chacun sait, chacun pense avoir allumé le bon programme. Non, nous devons une fois obtenir la connexion vers le haut. Nous devons nous débarrasser de tous les programmes envoyés sur cette terre, quelle que soit la station ou le site, car ils n'ont plus rien à nous dire. Nous voulons être arrachés à la terre comme un jambe sur l'île de Patmos et être transportés dans le ciel pour entendre ce que l'Esprit a réellement dit aux églises en ce temps. Nous parviendrons alors à faire abstraction de tout le reste. Vous savez que sur Terre, il y a beaucoup de possibilités que les gens peuvent choisir tel ou tel programme, tel site et peuvent arranger les choses à leur goût. Mais avec Dieu, c'est différent. Dieu, lui, il a un programme. Et aucun d'entre nous ne peut choisir. Dieu, lui, il a déjà décidé. Ce programme, c'est ce qui doit se dérouler maintenant. Au début des temps, jusqu'à la fin des temps, le programme de Dieu se déroule comme Dieu l'a prévu. Il suffit que nous l'ayons bien allumé. Nous devons avoir l'antenne. Tout cela doit être correct. La connexion doit être là. Et chers frères et sœurs, c'est pour cela que Dieu convoque son peuple maintenant. Pour lui faire entendre sa parole, pour leur montrer le plus clairement possible qu'il laisse un programme, lui, il laisse un programme se dérouler. Aujourd'hui, nous pouvons regarder en arrière dans l'histoire de l'Église et voir le programme de notre Dieu tel qu'il s'est déroulé. Mais le voyons-nous à notre époque? Telle est la question. Le peuple d'Israël avait été amené à l'extérieur par une main puissante. Ils ont marché dans le désert pendant 40 ans. Ils auraient pu être dans le pays en très peu de temps. Mais l'Écriture dit qu'ils n'ont pas reconnu mes voies, que j'ai dû jurer dans ma colère qu'ils n'entreraient pas dans mon repos. Le peuple du Seigneur, confirmé par des actes puissants, sous la conduite de la colonne de feu. Puis, à la fin, Dieu n'a pas trouvé son bon plaisir en eux, et tous ceux de la première génération, âgés de 20 ans et plus, ne sont pas entrés dans le pays de la promesse. Parce que Dieu les a punis et s'est mis en colère à cause de leur dureté de cœur, à cause de leur méchanceté. Et il a dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Mais la jeune génération qui en est sortie, qui n'était pas aussi semi-rigide, y est ensuite entrée. Il semble que le Seigneur, Dieu, par grâce, on ne veut pas le dire, mais même à cette époque, dans ce temps actuel, maintenant, Dieu, donc, tant que le serviteur et le prophète de Dieu étaient ici sur terre, les gens n'ont pas du tout compris. Et j'ai rencontré suffisamment de gens qui pouvaient dire, « Oh, nous sommes déjà allés avec Frère Branham ici et là. » Je ne veux pas utiliser ce mot, mais je dois le dire. Je dois l'utiliser. J'ai rencontré trop de gens qui sont tordus. Mais j'ai rencontré une jeune génération, des gens qui ont alors entendu ce que Dieu a fait et qui l'ont accueilli avec reconnaissance. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir été là, quelque part ou pas. Ce qui compte, c'est que nous soyons là aujourd'hui. Si nous reconnaissons aujourd'hui le chemin de notre Dieu avec son peuple et si nous le suivons, c'est cela qui compte. Personne ne pouvait dire à l'époque, « Oh, nous étions avec Moïse. » Cela ne comptait pas du tout d'avoir été avec Moïse. La question est de savoir si nous sommes avec Dieu et si Dieu est avec nous. Même le fait d'être avec un prophète n'a jamais aidé personne. Sauf si Dieu pouvait être avec l'homme en question comme il était avec le prophète. Sinon, tout cela ne sert à rien. Mais les gens qui ont un esprit naturel se font bronzer avec les rayons qui sont descendus et cela ne les aide pas du tout à la longue. Nous voulons que Dieu soit avec nous. Nous voulons reconnaître la voix claire de notre Dieu maintenant. Je crois que le Seigneur nous a rendus suffisamment sobres pour que nous ne regardions pas seulement en arrière vers l'année 33 où Dieu a fait prédire des choses énormes. Nous ne regardons pas non plus en arrière à l'année 46 où Dieu a donné l'ordre, a donné le mandat. Nous ne regardons pas non plus en arrière à l'année 65 lorsque Dieu a pris son serviteur et prophète. Nous regardons tout le chemin que nous parcourons, le Dieu Tout-Puissant à lui pour le reconnaître dans son action. Et nous ne vivons pas aujourd'hui dans l'année 33, ni en l'an 46, ni en l'an 65. Nous vivons aujourd'hui à l'an 74, donc 74, et nous devons aujourd'hui reconnaître les voies de Dieu avec son peuple. D'autre part, nous avons raté la correspondance. Alors, nous nous arrêtons à la gare et le train part. Non, que Dieu nous accorde, comme nous le pensons, sincèrement, que Nous qui voulons tenir devant lui, nous subsister devant lui, la grâce de classer toutes choses selon la Bible nous soit accordée. Et vous savez très bien qu'il y a suffisamment de gens qui font partie, qui font passer le ministère d'un homme de Dieu pour qu'ils deviennent finalement, n'est-ce pas, idolâtres. Ils font passer le ministère d'un homme de Dieu pour qu'ils deviennent finalement idolâtres. Je l'ai vu et entendu, mais il y a un peuple dans l'esprit duquel se trouve la parole de Dieu, dans l'esprit duquel se trouve la clarté et la vérité. Un peuple qui ne se laisse pas entraîner dans l'idolâtrie par quoi que ce soit, mais qui a un vrai service divin. Et le vrai service divin, c'est de pouvoir adorer en esprit et dans la vérité. Et nous ne pouvons adorer en esprit et dans la vérité que si ce que nous croyons et ce que nous enseignons est à 100% la vérité biblique inspirée par l'Esprit de Dieu, donnée par l'Esprit de Dieu. Il n'en va pas autrement. Dans une interprétation, il n'y a ni esprit ni vérité. Mais la parole de Dieu est esprit et vie. La parole de Dieu est vérité. Et celui qui est dans la parole de Dieu peut adorer en esprit et dans la vérité. Nous donnons à chacun la place qui lui revient, à un prophète, la place d'un prophète, mais pas l'inverse. Nous ne confondons pas les rôles. Nous ne le souhaitons pas, nous ne le voulons pas. Tout honneur, toute louange, toute adoration revient à celui qui en est digne. Et cela, c'est l'agneau. J'ai dû dire clairement que toutes ces choses, que ce soit l'ouverture des seaux ou quoi que ce soit d'autre, comme des fois on entend si facilement, surtout outre-mer, que l'on dit « Oui, frère Branham a ouvert les seaux. » J'ai dit que ce n'était absolument pas vrai. Dans ma Bible, il est écrit que le lion de la tribu de Juda a vaincu pour prendre le livre et en ouvrir les seaux afin de révéler ce qui y est écrit. Ce qui y est écrit. Un prophète reçoit ce que l'agneau de Dieu donne. Et nous recevons tous par le ministère d'un prophète. Il est pratiquement comme un médiateur, si l'on peut l'exprimer ainsi. Le Seigneur Dieu se sert d'un homme. Et puis, il y a des gens qui pensent connaître la parole de Dieu et qui se passent la corde au cou. Combien de fois ai-je entendu dire qu'Hébreux 1 dit que Dieu a parlé autrefois par les prophètes, mais que maintenant, dans les derniers jours, il a parlé en son Fils Jésus-Christ. Et ensuite, ils mettent les points sur les i et c'est fini. Ensuite, il n'y aura plus rien du tout pour eux. C'est la dernière lettre, le dernier mot dans la Bible pour eux. C'est tout ce qui vient. Il n'y a rien de plus. Pourquoi en est-il ainsi? Ils n'ont pas l'esprit de la révélation. Si l'auteur de l'Épître aux Hébreux pouvait se tenir ici ce soir, il nous dirait, chers frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est seulement sous la direction du Saint-Esprit que j'ai tiré un trait sur le ministère de tous les prophètes de l'Ancien Testament et que j'ai prouvé que tout ce qu'ils ont prophétisé s'est accompli en Jésus-Christ. Est-ce vrai ou non? Mais il n'a pas tiré un trait sur un Nouveau Testament. Surtout le Nouveau Testament, le même Seigneur qui nous a rachetés a dit, je vous enverrai des prophètes. Et il est écrit que j'ai placé dans l'église des prophètes, des apôtres, des enseignants, des bergers, des évangélistes, jusqu'à la promesse, voici que je vous envoie. Élu le prophète avant que vienne le jour grand et terrible du Seigneur. Mais qu'est-ce que c'est? Il faut avoir le Saint-Esprit pour bien comprendre la parole de Dieu. Sinon, on prend une parole et on fait de grands malheurs avec cette parole. Dois-je vous dire qu'un homme non autorisé fait beaucoup plus de mal avec la parole de Dieu qu'il n'aide. Il prive les gens de la bénédiction de Dieu et ne le sait même pas lui-même et se pense encore être intelligent. La parole de Dieu doit être lue correctement. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il a vu cela en Jésus-Christ. Toutes les promesses que tous les prophètes ont annoncées depuis le début des temps, elles ont été accomplies. Et il a pu mettre cela en évidence. Mais comme il n'a fait que mettre un point final à l'Ancien Testament pour ouvrir maintenant une porte afin que Dieu puisse envoyer des apôtres, des prophètes, des enseignants, des bergers et des évangélistes dans l'église afin de pouvoir leur annoncer la richesse de la grâce de Dieu. Si quelqu'un pense que le passage du prophète Malachi ne s'applique pas à un prophète qui viendrait aux nations, car dans l'Ancien Testament, ces prophètes, ces promesses sont toujours intercalées comme un joyau quelque part. Et si on ne sait pas lire correctement, on risque de ne pas pouvoir classer ces choses. Mais si vous lisez à propos des deux prophètes qui iront en Israël, à Jérusalem, nous lisons dans Zacharie, au 4e chapitre, que le chandelier d'or est montré. Ensuite, deux oliviers, l'un à droite et l'autre à gauche, à côté du chandelier. Et si vous prenez ce passage de Zacharie 4, vous le retrouverez au chapitre 11 de l'Apocalypse. Car là, celui qui écrit littéralement que ce sont les deux oliviers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Zacharie 4, verset 14. Mais quand il s'agit de ce prophète-là, unique, au singulier, promis pour aujourd'hui, personne ne le trouve dans Apocalypse 11. La promesse du prophète à la fin des nations, à la fin du temps de la grâce, est au singulier. Et les deux prophètes pour Israël, c'est au pluriel. Il faut voir cela une fois pour toutes. Frères et sœurs, nous devons avoir un fondement qui soit inébranlable. Il n'est pas possible que n'importe qui vienne et utilise une sorte de pied de biche sur ce fondement en disant « Je vais vous faire trembler ». Il n'y a pas d'ébranlement. La parole de notre Dieu est solide comme le roc. C'est une révélation pour ceux qui sont dans le Saint-Esprit et qui peuvent la voir et l'entendre. Si les gens veulent vaciller, qu'ils vacillent sur leur fondation, car elles sont de toute façon déjà suffisamment branlantes. Mais cela vacille sans qu'il ne vacille. Ce dont nous avons besoin, c'est d'un fondement solide et inébranlable de la parole révélée en ce temps. Et les contes de fées, nous ne croyons pas tous. Nous en avons trop honte. Mais la précieuse parole de Dieu, nous la croyons de tout notre cœur et de toute notre âme. Même le Sauveur a dit après le retour du ministère, après que le ministère de Jean Baptiste soit achevé, il a dit qu'il enverra le prophète qui doit rétablir toutes choses. Et Pierre le dit au chapitre 3, au verset 21 des Actes des Apôtres, le ciel doit recevoir le Christ jusqu'au temps du rétablissement de tout ce que Dieu a dit par la bouche de ses serviteurs et des prophètes depuis le commencement. C'est la parole de Dieu. Personne ne peut passer à côté, mais elle a besoin de la révélation divine. Vous ne pouvez pas aller avec cette parole chez un scribe ou un prédicateur à qui elle n'a pas été révélée par Dieu. Il ne la comprendra pas. Combien de fois recevons-nous du courrier, des gens sincères entendent parler d'un frère et on dit qu'il est béni, et alors ils vont demander à ce frère béni. Et le frère béni dit, « Oh, c'est une chose très dangereuse. » Ce n'est pas si dangereux que ça. Elle n'est pas aussi dangereuse que le frère béni le pense. Car s'il était vraiment béni, il saurait où se trouve la parole de la promesse de la bénédiction. Savez-vous où elle se trouve? Béni tous ceux qui lisent et ceux qui écoutent les paroles de sagesse de la prophétie de ce livre, les paroles de la prophétie de ce livre, et qui gardent ce qui est écrit. C'est là que réside la bénédiction. La traduction anglaise est littéralement le mot béni est celui qui lit les paroles et celui qui les entend, qui les garde. Au lieu du mot bienheureux, il y a c'est être béni. Béni est quiconque lit les paroles et les entend. Qu'est-ce que c'est? Une bénédiction pour l'Église, pour reconnaître ce que l'Esprit de Dieu a fait à cette époque. Et nous sommes assez ouverts pour dire que nous sommes reconnaissants pour le ministère évangélique, pour toutes les bénédictions, pour tous les enseignements. Mais c'est la partie prophétique qui nous ouvre le cœur. Nous avons pu nous orienter. Nous avons reçu la boussole dans notre main de foi. Connaissons la direction à suivre. Nous pouvons situer les choses. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Si nous ne savons pas encore les classer, alors il est grand temps. L'Esprit de Dieu classe Il nous classe ensemble en tant que corps de Jésus-Christ, en tant que membre de ce corps. Il leur donne tout ce qui doit être donné à l'Église sur le plan de l'enseignement et par la révélation. Paul écrit aux Corinthiens, « À quoi servirais-je si je venais à vous sans pouvoir vous adresser des paroles d'enseignement et des révélations, de des révélations prophétiques ?» Beaucoup voudraient être Paul aujourd'hui, comme l'a fait un frère au Luxembourg qui n'avait plus d'argent pour continuer son voyage. Il a dit, « Je voyage comme Paul. Dieu n'a pas besoin d'un tel Paul. » Il a besoin d'hommes remplis de l'Esprit Saint, capables de contempler la gloire céleste, qui savent de quoi ils parlent. Sinon, nous serons comme cet homme qui s'est réclamé de Paul et qui s'est... Et le possédé lui a dit, « Nous connaissons Paul et Christ, mais qui es-tu ?» Et il a d'abord un peu corrigé. Dieu a besoin d'hommes qui soient conduits par le Saint-Esprit dans toute la vérité. Des gens qui, dans la crainte de Dieu, sont convoqués pour écouter la parole du Seigneur. Je voudrais que tous ceux qui pensent que nous ne voyons pas les choses correctement viennent un jour, peut-être saisis par la main de Dieu pour être submergés par l'Esprit de Dieu, afin qu'ils sachent que nous savons de quoi nous parlons. Nous ne disons rien d'autre que ce que la parole de Dieu nous dit. Conformément à sa promesse, Jésus-Christ a voulu se révéler à la fin comme le Fils de l'homme. Et si vous ne me croyez pas, sur parole, je n'en veux à personne. Chacun a le droit et devrait vérifier. Lisez Luc 17. Ne lisez pas seulement le verset 30. Vous pouvez continuer à lire le verset 34 et vous constaterez ce qui est écrit. Deux moudrons à la meule, l'une sera enlevée, l'autre laissée. Deux seront dans un champ, l'une sera prise, l'autre laissée. Juste après, lorsque Jésus-Christ parle de se révéler en tant que fils de l'homme, il est écrit au sujet de l'enlèvement. Oui, alors je me demande, la parole de Dieu a-t-elle quelque chose à vous dire ou non? Qu'est-ce que nous attendons en ce moment, en ce temps? Combien de fois Frère Branham a-t-il dit que le dernier signe donné à l'Église, c'est ce qu'elle voit maintenant? C'était le même signe de la révélation divine. Les pensées du cœur ont été révélées comme à Philippe et comme le Seigneur l'a dit à tous ceux-là, à Nathanaël et aux autres. C'est ce qu'il a fait dans le ministère prophétique de cette époque, de ce temps. C'était le dernier signe. Jésus-Christ s'est révélé d'une manière simple. Le problème avec nous tous, c'est que nous sommes tous trop compliqués et nous voulons faire de la cause de Dieu une chose, une grande chose. La cause de Dieu est grande, mais seulement pour les enfants de Dieu. Pas à nos yeux, pas aux yeux des hommes. Aux yeux des hommes, rien de ce que Dieu fait ne sera jamais grand. Avez-vous déjà entendu un homme, un sage? Si tant est que de telles personnes existent, ce sont de toute façon des insensés aux yeux de Dieu. Mais avez-vous déjà entendu de telles personnes parler d'une manière ou d'une autre, avec bienveillance, d'une chose que Dieu a faite? Avez-vous déjà rencontré un médecin qui, lorsqu'il apprend que quelqu'un a été guéri, oh là là, il donne immédiatement une pilule à celui qui parle? Il remet cela en question. Il ne veut pas donner son honneur à quelqu'un d'autre. Il pense que cet honneur est là pour lui en tant que médecin. Et comme l'a dit Frère Branham, les médecins prennent leurs propres médicaments et meurent aussi. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est de la manifestation du Saint-Esprit dans notre vie et dans l'Église du Dieu vivant. J'espère que les derniers doutes seront levés, frères et sœurs. Nous ne pouvons plus nous permettre de douter. Et je l'ai dit mercredi soir, Frère Bosworth a dit que si quelqu'un veut douter, qu'il doute de ses doutes, mais jamais de Dieu ou de sa parole. Et nous devons garder cela à cœur, à l'esprit. La parole de Dieu ne laisse aucune place au doute. La parole de Dieu est authentique, vraie et crédible. À notre époque, la parole de Dieu était à double tranchant. Elle était tranchante, elle frappait en allant et en venant, de toutes les manières dont la parole de Dieu est allée, est venue partout, elle a tranché, elle a séparé, elle a pénétré la moelle et les os, le cœur et l'esprit pour rendre manifeste comme il est écrit. Alors une épée te transpercera l'âme et les pensées des hommes seront révélées. Elles ont été révélées en ce temps. Vous avez dit que si cet homme était de Dieu, il ne ferait pas telle ou telle chose. Vous avez bien, vous avez fait la même chose avec notre Seigneur ou pas. Vous dites que si cet homme était de Dieu, alors le jour du sabbat, ah, le sabbat, le Sauveur dit, je suis le maître du sabbat, laissez-moi tranquille. Mais les gens viennent et veulent dire, si c'était le cas, qu'ont-ils à dire d'ailleurs? Lorsque Dieu parle, le peuple de Dieu doit être convoqué pour entendre les paroles de sa révélation. Et là, tous les autres doivent aussi se taire. Même les prédicateurs, ils ont parlé assez longtemps. Qu'ils se taisent maintenant pour entendre ce que l'Esprit de Dieu a effectivement révélé à travers le message prophétique pour trouver le lien avec l'action de Dieu. Ils n'y parviendront pas autrement. Chacun a son propre programme. Tout est planifié pour un avenir lointain. Notre avenir, c'est le Sauveur. Nous savons qu'il reviendra bientôt. Combien d'entre vous comprennent de tout cœur que la révélation prophétique de ces derniers temps était identique à celle des jours où le Seigneur Jésus marchait ici-bas et faisait connaître le signe du Messie aux gens, leur disant qui ils étaient, d'où ils venaient et révélant les secrets de leur cœur. Comme lorsqu'il est allé voir Abraham autrefois et a pensé, comment puis-je cacher à Abraham ce que je vais faire? Le temps de la destruction de Sodome était proche. Et le Seigneur est venu et l'a révélé à son prophète Abraham. C'est de la même manière que le Seigneur s'est révélé en ces temps, en ces jours. Frères et sœurs, c'est aussi clair que cela peut l'être maintenant. Mais il m'a fallu beaucoup de temps pour voir cela et chacun a besoin de temps. Nous n'en voulons à personne qui ne le voit pas du premier coup. Je le répète, nous avons tous besoin de temps, nous n'en voulons à personne, mais nous y croyons de tout notre cœur que nous ayons déjà rassemblé les choses ou non. Nous savons que ce que Dieu fait est bien fait et ce que Dieu fait a un sens et un but. Nous faisons beaucoup de choses qui n'ont aucun sens, mais pas Dieu. Tout ce que Dieu fait a un sens et un but. J'ai compris dès l'année 55, lorsque j'ai vu le ministère de cet homme de Dieu, qu'il devait y avoir un sens et un but de Dieu derrière une telle autorité, derrière un tel ministère, un tel ministère. Et au fil des années, Dieu a introduit et fait pénétrer dans toutes les profondeurs de sa parole par le Saint-Esprit. Jésus-Christ marche au milieu des sept chandeliers d'or comme le Fils de l'homme. Lisez donc vous-même Apocalypse 1, verset 13 et voyez si ce n'est pas vrai. Et cela nous ramène à Luc 17 et au verset 30. Et après cette dernière révélation en tant que Fils de l'homme, nous lisons au sujet de l'enlèvement. Deux seront à une meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Dans le même chapitre 17 de l'évangile de Luc, vous pensez que c'est une coïncidence? Dieu ne connaît pas le hasard. Dieu n'a pas besoin du hasard, et nous non plus. Ce qui est écrit est vrai et subsiste pour l'éternité. Le Seigneur s'est révélé en ce temps, selon sa précieuse et sainte parole. En tant que Fils de Dieu, il a sauvé, guéri, béni. En tant que Fils de l'homme, il a révélé la parole prophétique et l'a donnée à l'Église. Il est pourtant les deux. Il est le Fils de Dieu, il est le Fils de l'homme, il est le Fils de David. Il est tout en tous. Il suffit de le classer correctement. Et comme autrefois, les hommes de Dieu au début du Nouveau Testament, ils ne se sont pas contentés de parler de ce qui se passait. Ils ont fait un classement biblique pour montrer à l'Église qu'une partie de l'histoire du salut s'accomplissait ici. Et c'est de cela qu'il s'agit. La dernière partie de l'histoire du salut s'accomplit à notre époque. Et si nous pouvons la situer bibliquement, la classer, alors notre cœur exulte et se réjouit. Nous avons alors reconnu le chemin de Dieu. Alors, il n'a pas parlé en vain. Alors, nous sommes entrés dans le lieu très saint pour entendre et comprendre sa voix. Nous ne voulons pas seulement avoir l'Esprit de Dieu. Nous voulons que l'Esprit de Dieu nous possède et qu'il puisse nous conduire et nous guider et nous diriger dans nos pensées, dans notre cœur, dans toutes nos actions. Il est écrit que lorsque l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Jean avait été amené sur l'île de Patmos dans le but que l'Église soit instruite prophétiquement jusqu'à la fin, pour qu'elle puisse s'orienter et que l'Esprit de Dieu puisse prendre la parole écrite et la révéler en temps voulu. Rassemble-moi, mon peuple, afin que je puisse leur dire mes paroles. C'est la seule raison pour laquelle nous sommes réunis ici aujourd'hui et en ces jours. Rassemble-moi, mon peuple, pour que je puisse leur dire mes paroles. Et ces paroles sont esprit et vie. Ces paroles sont des enseignements pour la justice. Elles sont des instructions. Elles pénètrent. Ces paroles nous montrent le chemin à suivre. Comme il est écrit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Le verset 105. Cette précieuse parole de Dieu nous a été illuminée par le Saint-Esprit dans ce temps. Cette parole prophétique dont parle Pierre brille comme une lumière éclatante dans un lieu obscur. Qu'en est-il de nous ce soir? Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il sauve, il guérit, il bénit. Jésus-Christ est le Fils de l'homme. Il parle, il révèle, il se fait connaître. Il n'a pas seulement perçu la part de rédemption pour nous délivrer de la perdition, pour nous guérir de la maladie, pas seulement pour nous sauver. Pour cela, nous sommes reconnaissants qu'il l'ait fait. Mais ce n'est qu'une partie de ce que Dieu nous a donné par grâce. Jésus-Christ est en même temps le Fils de l'homme. Il parle. Il élève la voix. Il veut que tous entendent ce qu'il dit, ce qu'il a dit dans ce temps. Et lorsque nous lisons dans Apocalypse 1, verset 20, que sept étoiles sont dans sa main droite et les sept étoiles sont les sept anges aux sept églises, et ensuite nous lisons sept lettres d'envoi adressées chacune à l'ange de l'église, et à la fin de chaque lettre d'envoi adressé à l'ange qui doit ensuite communiquer à l'Église ce que Dieu révélerait à ce temps-là précis. Après cela, il est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Je vous pose maintenant la question, qui entend ce que dit l'Esprit à l'Église en ce temps présent, maintenant? Qui entend? Ou en quoi consiste l'écoute dont parle la Bible dans ce contexte? En quoi consiste-t-elle? Le message est adressé à l'ange de l'Église, au messager de Dieu. Et ce messager de Dieu apporte le message dans l'âge de l'Église. Et ensuite, à la fin de cette lettre, il est écrit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Pouvons-nous prendre la liberté de dire ce soir que quiconque reçoit la parole révélée par l'Esprit de Dieu et croit comme l'a apporté le messager envoyé par Dieu dans l'âge déterminé par la révélation du Saint-Esprit, entend ce que l'Esprit a à dire aux Églises. Est-ce vrai ou non? C'est aussi vrai que ce qui est écrit dans la Bible, que tel que c'est écrit dans la Bible. Quelqu'un ne peut pas venir ici et dire, mon frère tel et tel, je vous dis maintenant ce que l'Esprit dit aux Églises. Il ne sait même pas lui-même. Non, il s'agit du messager que Dieu a choisi. Et cette, Et cette position, personne ne peut la prendre. Personne ne peut dire, bon, maintenant, alors, Seigneur, je vais maintenant faire entendre ce que l'Esprit de Dieu dit. Le Seigneur dit lui-même qui doit et qui ne doit pas. Il prépare ses récipients, ses vases. Nous devons respecter cela. Nous devons le reconnaître. Dieu a fait en ce temps. Nous le confessons avec une grande liberté, en toute franchise, en toute bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Le Seigneur Dieu a envoyé son serviteur et prophète. Il lui a donné le message de la révélation prophétique et de l'enseignement pour son peuple en ce temps. Et nous voulons entendre, et celui qui veut entendre ce que l'Esprit dit aux églises en ce temps, qu'il entende le message de Dieu pour ce temps. C'est aussi clair que la Bible peut le faire devenir clair. Et celui à qui il a été donné de comprendre cela sera béni par la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. Il pourra vaincre, car immédiatement après, il est écrit, à celui qui vaincra, je donnerai, et ensuite vient la promesse. Qui peut vaincre? Mais celui seulement qui reçoit en lui la parole de Dieu révélée par le Saint-Esprit. Celui qui est relié ainsi à Dieu. Jésus-Christ était la parole faite chair. Et cette même parole doit devenir se faire chair en nous. Nous devons devenir un avec la parole, un avec Christ et un entre nous. Et alors nous sommes sur le bon chemin, classés par Dieu pour pouvoir être des vainqueurs. Combien de fois parle-t-on de vaincre? Et les hommes veulent vaincre avec leurs propres mots et leurs propres forces, avec leurs propres paroles et leurs propres forces. Combien parle-t-on de sainteté et de sanctification? Et on parle de soi-même et de tout ce que l'on a fait et réussi. La Bible parle de la sanctification de l'Esprit. L'avez-vous déjà lu? De la sanctification de l'Esprit. La Bible parle de nous purifier de toute impureté de la chair et de l'Esprit. Et le temps est venu. On ne peut plus mélanger deux choses ensemble. Le temps est venu où personne ne devrait parler, à moins qu'il n'ait compris le discours de Dieu. Et il sait comment classer les choses dans la crainte de Dieu et dans l'ordre de Dieu, exposer le conseil du salut de Dieu et dire au peuple de Dieu de quoi il s'agit. Le Seigneur a eu les 7 étoiles dans sa main droite et une épée est sortie de sa bouche. C'est une parole puissante. Et nous l'avons entendu à cette époque. Nous pouvons voir rétrospectivement ce que Dieu a fait jusqu'à aujourd'hui. Nous pouvons constater l'action de notre Dieu dans son Église. Nous pouvons comprendre son action dans son Église et nous en sommes reconnaissants. Nous n'élevons aucun homme, mais nous n'abaissons aucun homme non plus. Nous élevons Dieu et lui laissons le soin de décider qui il élève et qui il abaisse. Mais nous laissons chacun à la place que Dieu lui a assignée. Paul, dans le contexte dans lequel il se trouve, quelqu'un m'a dit ces jours-ci à l'étranger, il a dit, frère Franck, as-tu déjà réfléchi au nombre de fois où le nom de Moïse est utilisé dans les 5 premiers livres de l'Ancien Testament? Je dis que non, je ne l'ai pas fait. Je ne m'en souviens plus. Cela a été 600 fois. En tout cas, le nombre de fois où le nombre de Moïse a été utilisé est fabuleusement élevé dans le contexte de son service qu'il a rendu à Dieu, qu'il a exécuté pour Dieu. Aujourd'hui, si l'on mentionne une fois le nom du serviteur de Dieu que le Seigneur a utilisé d'une manière aussi puissante, les marionnettes s'agitent. Je ne sais pas pourquoi. Laissez donc Dieu faire ce qu'il a voulu faire et réjouissez-vous. Ensuite, il vous utilisera aussi. Mais nous devons d'abord pouvoir nous réjouir qu'il ait utilisé quelqu'un d'autre et le placer en position de bénédiction. Nous ne pouvons de toute façon pas le changer. Ou peux-tu le changer? Si tu peux le changer, tu peux le faire jusqu'à... Tu aurais pu le faire jusqu'à aujourd'hui. Tu as eu tout le temps. Aucun homme ne peut changer cela. Ce que Dieu a fait, cela reste fait. On peut s'en irriter et être confondu. On peut s'en réjouir et être édifié. Je veux m'en réjouir et non m'en effusquer. Le Seigneur a dit, béni tout ce qui ne s'irrite pas en moi, qui ne s'irrite pas contre moi. Celui qui s'irrite contre moi tombera. Et qu'est-ce qui est écrit? Celui qui se heurte contre le rocher tombera et le rocher l'écrasera. Est-ce vrai ou non? Il ne sert à rien de s'attarder sur les voies de Dieu de quelque manière que ce soit. Nous ne sommes pas là pour nous arrêter. Nous sommes là pour marcher sur les voies tracées de notre Dieu en ce temps. Et tout homme qui a vécu et saisi le classement biblique ne se heurte plus du tout. Il ne souffre plus du tout. Chez lui, les choses vont très bien. Ils ne tombent pas non plus dans l'obscurité, car ils marchent dans la lumière. Et la Bible dit que celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Et il tombe. Mais celui qui marche dans la lumière ne se heurte pas. Frères et sœurs, à quoi se heurte-t-on encore? Si c'est le cas, c'est une preuve que nous n'avons pas encore pleinement compris et reconnu la lumière du soir ou que nous n'y marchons pas encore. Celui qui a compris cela ne se heurte plus du tout. Il est devenu libre. Il est devenu un enfant de Dieu joyeux par la grâce. Rassemble-moi, mon peuple, pour qu'il entende les paroles que je vais lui dire. C'est de cela qu'il s'agit maintenant en ce temps. Ensuite, que celui qui a des oreilles qui entendent ce que l'Esprit dit aux églises. On pourrait développer cette pensée à l'infini. Chaque fois que Dieu avait un message, il faisait sonner la trompette, convoquait le peuple et faisait connaître ce qu'il avait à lui dire. Dieu a fait sonner une puissante trompette. De nos jours, nous sommes réunis pour entendre sa parole. Et il dit, « Je me suis révélé comme le Fils de l'homme. » Après tout ce temps où je me suis révélé comme Fils de Dieu, où j'ai prouvé que j'étais vivant, où j'ai sauvé, guéri et béni, j'ai maintenant ouvert ma bouche pour donner la parole prophétique, pour l'illumination et l'édification de l'Église. C'est ce qu'il nous dirait à tous aujourd'hui. Puis il dit, béni, celui qui maintenant ne se scandalise pas en moi. Avons-nous tous compris cela, vraiment compris que le ministère auquel nous avons assisté ces jours, si, n'était pas le ministère d'un homme, mais le ministère du Seigneur lui-même, révélé et manifesté par un simple instrument. L'instrument n'est pas celui qu'il a utilisé ou fabriqué. Au Seigneur, Dieu revient tout honneur, toute louange, toute gloire dans le temps et dans l'éternité. Nous ne remercions pas le serviteur d'être venu. Nous remercions Dieu d'avoir envoyé un serviteur. C'est vrai ou non? Les remerciements sont toujours adressés à une seule adresse, à une seule personne. On ne peut pas remercier deux personnes. Le Seigneur est un seul Dieu. Et il dit, je ne donne pas ma gloire à un autre. Celui qui veut remercier, qu'il remercie le Dieu vivant. C'est toujours à la bonne adresse. Et fais-le toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors cela parvient toujours à notre Père Céleste qui nous regarde en grâce même ce soir et qui dit, mon peuple, ne vous ai-je pas fait convoquer tous pour vous faire connaître à nouveau mes paroles, pour vous parler encore une fois au cœur, pour vous dire encore une fois définitivement, croyez-moi, ce que j'ai fait en ce temps est juste. C'est juste si on peut le croire et le saisir et même pas dire ceci ou cela. Oh, cela n'est pas bon. Qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous? Je vous demande, qu'est-ce qui n'est pas bon pour vous? Je ne parle pas de vous qui êtes ici, qui écoutez après les bandes magnétiques. Il y a en effet d'autres brebis que Dieu veut encore appeler pour les amener dans la bonne bergerie. Mais nous savons tous très bien que beaucoup ont justement quelque chose à reprocher sur tout, sauf sur eux-mêmes. Et c'est là que réside la grande erreur. Dieu nous a appelés dans cette génération. Il nous a convoqués de l'est et de l'ouest, du sud et du nord, de loin et de près. Il a dit, je vous ferai connaître mes paroles. Et ces paroles sont des paroles de révélation, des paroles d'instruction, de réprimande, d'avertissement. Puisse le Seigneur réussir à nous donner la liberté de son esprit en ce lieu, même si vous êtes tous ici, de telle sorte que chacun puisse s'oublier et que nous nous ouvrions devant la face de notre Dieu pour recevoir sa bénédiction. D'habitude, je dis aux gens de commencer la bénédiction au début de la réunion pour l'avoir à la fin. La plupart des gens attendent la fin pour recevoir la bénédiction et deviennent alors nerveux et ne l'ont peut-être pas reçu. Mais celui qui commence à prendre et à recevoir la bénédiction de Dieu au début d'une réunion a beaucoup de bénédictions à la fin. Il faut se réjouir chaque fois que l'on se réunit comme un petit enfant de chaque pensée que Dieu nous dit dans sa parole. Alors la bénédiction vient déjà et nous sommes inondés de la puissance du Dieu vivant. Et si cela se passe ainsi tout au long de la réunion, nous aurons à la fin tellement de bénédictions que si nous disons maintenant, passons à la prière, vous verrez que 20 personnes à la fois commenceront à prier. Pourquoi? Ils ont reçu la bénédiction du Dieu Tout-Puissant. du Dieu Tout-Puissant au long de la réunion. Ils l'ont reçu quand l'occasion se présente. La bénédiction jaillit comme une source. Le Seigneur l'a dit, de l'Esprit qui devait venir sur nous. Et l'Esprit est toujours là où se trouve la parole. Il y a aussi l'Esprit de Dieu pour rendre la parole vivante, pour la révéler, pour la rendre correctement claire pour l'individu. Et voilà, qu'elle jaillit, l'eau que je donnerai, dit-il, deviendra en vous une source, une fontaine qui jaillit dans la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est ça comme source? Une source de Dieu qui jaillit en nous par reconnaissance pour ce que le Seigneur a fait pour nous. Réfléchissez donc à des millions de personnes qui sont toutes meilleures que nous, qui sommes assis ici aujourd'hui. Ils passent à côté de Dieu et de la parole de Dieu comme si elles n'avaient rien à leur dire. Voici un tas d'hommes misérables, sans réputation, sans rang et sans nom, mais qui ont reçu la grâce par Dieu pour entendre sa parole révélée en ces derniers temps, en ces derniers jours. Nous pouvons dire ce soir, bénis soient vos yeux qui voient ce que Dieu a fait et vos oreilles qui entendent ce qu'il a fait en ce temps, car il a vraiment accompli sa parole et tenu ses promesses. Et tous ceux qui lui accordent la foi sont bénis, ils sont inondés de la puissance du Saint-Esprit. Cela devient pour eux une réalité vivante. C'est comme s'ils étaient assis dans une pièce avec Dieu et qu'ils regardaient comment il a planifié, comment il a ordonné les choses, comment il les a assemblées. En esprit, nous voyons Dieu le Seigneur à l'œuvre. Il est en train d'achever son œuvre. Il nous a donné la parole de la restauration et sa puissance est en route. Louange et remerciement. Vous commencez à connaître l'histoire de Job. Le même Dieu va donner un rétablissement de toutes choses qui se fera voir et entendre. Un rétablissement avec puissance et autorité parmi ceux qui ont persévéré dans la foi, qui ont tenu bon dans le mépris et qui savaient pourtant « Mon rédempteur est vivant. » Il prononcera le dernier mot et à la fin des jours, il se manifestera. C'est ce que Job a retenu. C'est ce que nous retenons. Il se révélera. Le dernier, il élèvera son peuple. Il le couronnera de grâce et de miséricorde. Il le bénira et l'enlèvera dans sa gloire. Comment pourrait-il dire, « Venez-vous les bénis de mon Père » si nous n'avions pas été bénis auparavant? Comprenez-vous ce que je veux dire? Il faut d'abord qu'il nous bénisse puissamment afin de pouvoir dire ensuite, « Venez, vous qui êtes bénis. » Oui, c'est très clair. Il ne peut pas être autrement. « Venez-vous les bénis de mon Père. » Oui, celui qui est béni par le Père céleste est et reste béni. Comme autrefois avec Abraham, comme Dieu l'a dit à Israël, « Ce que j'ai béni, je l'ai béni. » Personne ne peut le changer. Oui, un homme a voulu juger. Dieu a dit, j'ai béni. Cela ne peut pas être retourné et repris. Chers frères et sœurs, notre Dieu est fidèle. Il a béni en ces jours. Il a rassemblé un peuple digne d'entendre ses paroles. Tout d'abord, nous voyons Christ comme fils de Dieu sur la croix. À Golgotha. Nous le voyons saigner à mort. Nous le voyons les bras étendus vers nous. Nous avons reçu le pardon des péchés. Nous avons reçu la vie éternelle. Et puis nous voyons maintenant Jésus-Christ, le Fils, comme Fils de l'homme, marcher au milieu des 7 chandeliers d'or. Il s'adresse maintenant aux rachetés. Au racheté, il est béni, il est introduit dans les mystères les plus profonds de sa parole et de sa volonté. Nous pouvons chanter avec ce cantique, gloire à l'agneau de Dieu, à toi, agneau de Dieu, sois la gloire, ton sacrifice est accompli. De nos fautes et de nos péchés, tu nous as délivrés. Nous sommes un peuple de sacrificateurs, roi dans ton royaume. Où est le peuple sur la terre qui soit semblable au tien? Que Dieu nous bénisse abondamment ce soir et qu'il nous ait bénis. Amen. Levons-nous pour la prière. Père céleste, nous te remercions de tout cœur, ô Dieu, pour tes multiples paroles. Fidèle Sauveur, tu te révèles comme le Fils de Dieu. Tu sauves, tu guéris, tu délivres, tu exerces tous les 9 dons de l'Esprit dans l'Église en tant que Fils de Dieu pour la bénédiction, l'édification, l'encouragement, la consolation, l'amélioration. Oui, tu marches en tant que Fils de Dieu pour te manifester de cette manière, pour te faire connaître en bénissant. Nous te voyons alors en tant que Fils de l'homme ensuite. Tu ouvres ta bouche, tu prononces des paroles de révélation, des paroles prophétiques, ô Dieu, et tu nous permets de contempler ton plan de salut. Nous voulons les deux, Jésus-Christ, nous voulons te voir en tant que Fils de Dieu, t'expérimenter en tant que Fils de Dieu, dans la puissance de ta résurrection, alléluia, dans la puissance de l'Esprit Saint. Nous voulons te vivre, comme te voir comme Fils de l'homme, dans la révélation totale de ta sainte et merveilleuse parole. Seigneur, nous te remercions, nous te louons, nous t'adorons. Tu es l'alpha et tu es l'oméga, tu es tout en tous, tu es loué, tu es exalté dans toute éternité. Bénis tous ceux qui ont levé les mains. Tu sais ce dont ils ont besoin. Sois proche de ta couronne, couronne-les de ta grâce et de ta miséricorde. À ceux à qui tu t'es déjà révélé comme Fils de Dieu, par le salut, par la guérison, par la délivrance, par la bénédiction, révèle-toi maintenant comme Fils de l'homme, par la révélation prophétique de ta sainte parole. Ô Seigneur, nous te louons, nous t'adorons. Notre cœur exulte, se réjouit et se prosterne et t'adore, car tu as fait de grandes choses. Tu as enlevé le rideau du temps, tu as retiré le rideau du temps et tu nous as fait contempler ton plan et tu nous as fait voir dans ton plan de salut. C'est pourquoi mon cœur exulte à toi, grand souverain. Alléluia, à ton nom merveilleux et saint. Amen.